Question simple, l'air de rien, que l'on peut poser à son collègue quand on a 5 minutes ou entre la poire et le fromage, comme on dit dans un dîner, pour varier les plaisirs, sonder les âmes, mettre un peu de piment ou décrocher un grand silence. Ah, question simple, qu'est-ce que tu ferais si tu étais immortel ?
Pascal Paradou.
Qu'est-ce que tu ferais si tu étais immortel ? Telle est la question, l'une des questions posées par Jennifer Richard dans son nouveau roman « La vie infinie », un récit au futur proche où l'on ne sait pas trop si les êtres sont réels ou numériques. Bonjour Jennifer Richard.
Bonjour Pascal.
Je n'aurais jamais osé poser cette question à un ou une invitée, mais puisque vous me tendez la perche, que feriez-vous si vous étiez immortel ?
Ah, je vous réponds à condition que vous me répondiez à votre tour.
Alors, c'est pas le jeu.
Ah, si j'étais immortel, je pense que je n'aurais de cesse de trouver une façon de mourir. Car je pense que ce serait une malédiction terrible d'être condamné à l'immortalité, car ça... Ce que j'essaie de démontrer, même si je laisse le choix au lecteur, c'est une question que je lance. Hein. Je ne sais pas d'asséner mes réponses, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ma réponse aussi un peu en cours de route, et je suis assez persuadée que si nous étions immortels, tout perdrait sa saveur, tout.
Mais alors, si je ne vous réponds pas, c'est pas tant que je veuille faire mon pudique ou que je n'ai pas d'idée sur la question, c'est que je ne me pose jamais la question. Est-ce que vous la posez, vous ?
Je ne me la suis posée que récemment, en fait, et sous plusieurs formes, c'est-à-dire d'une part... un premier degré, c'est-à-dire en observant certains mégalomanes, des milliardaires qu'on a dans plusieurs domaines de l'économie, on a un peu l'impression que ces personnes-là ne veulent pas mourir, parce qu'elles considèrent qu'elles ne méritent pas de mourir, en fait. Ou en tout cas, elles méritent de ne pas mourir, parce qu'elles ont trop de choses à conserver. Elles ont accumulé tellement qu'elles ne voient pas pourquoi elles mourraient et laisseraient tout ça derrière elles. C'est une figure que j'ai observée en plusieurs recherches, chez les personnes qui possèdent beaucoup. Et d'autre part, il y a quelque chose qui nous concerne quasiment tous, c'est la peur de la mort. Et cette question, pourquoi on a si peur de la mort, nous, pourquoi nous sommes les seuls êtres à avoir si peur de la mort ? Parce qu'on en a conscience. Et cette peur, si elle n'est pas apprivoisée un minimum, est terrible à vivre. Et en fait, c'est une question, c'est un revers de la question, pourquoi on a si peur de la mort ?
Mais c'est une question que vous vous êtes posée en écrivant le roman ou c'était la question préalable au roman ? Vous vous êtes dit, j'ai envie d'explorer cette question au travers d'un roman.
J'ai envie d'explorer cette question dans ma vie de tous les jours. C'est une question existentielle qui est, je pense, en chacun de nous, plus ou moins présente au fil des heures, des jours, des années. Évidemment, elle émerge vraiment comme une crise, peut-être en cas de maladie, en cas de deuil, à l'approche de la fin, la nôtre ou celle des gens qu'on aime. Là, c'est une question qui revient un peu dans mes romans, mais c'est moins présent dans les précédents. Et là, elle est plus à vif et plus à nu, cette question, peut-être.
Alors, c'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose, malgré tout, même si je feins de ne jamais me la poser. C'est la question de l'humanité, c'est celle aussi des religions. Parce que finalement, les religions essayent de répondre à cette question, c'est-à-dire l'avenir après la mort, et c'est la question de la résurrection. Il n'y a pas du tout de religion dans votre roman.
On peut l'avoir, si on veut.
C'est
pareil, parce que je ne veux ni l'imposer, ni la cacher complètement. Donc, la religion n'est pas présente, vous avez raison, mais la foi est là.
Et la résurrection, le mot est prononcé, mais c'est un mot qui est accolé à l'adjectif numérique. Il s'agit de croire à la résurrection numérique. Et l'un des personnages dit « il faut se transférer ».
Je crois que c'est à l'œuvre. J'ai bien peur que ce soit à l'œuvre depuis longtemps. C'est à l'œuvre sous forme numérique depuis récemment, mais se transférer... Quand vous pensez à certains grands empereurs, certains grands chefs d'État qui se faisaient enterrer avec tous leurs biens, je pense qu'il y a une façon de se transférer, corps et biens. Aujourd'hui, c'est de manière numérique, et on voit ça à l'œuvre avec tous les mondes virtuels. Ça aussi, c'est une question. Alors, c'est une question un petit peu plus ludique dans le roman. Le monde virtuel, sans vouloir en faire une question présente et passée dans la science-fiction. Mais le transfert numérique de toutes nos données métaboliques, physiques, biologiques, tout ça c'est très facile, on le fait qu'on le veuille ou non, malheureusement, avec nos téléphones. Mais il y a un transfert à l'œuvre beaucoup plus profond de notre psychologie et je pense en même temps, très bientôt, de la conscience humaine.
C'est vrai que le paradis, ça pourrait être le cloud aujourd'hui.
Je pense, tout à fait. Ouais, ça pourrait être le paradis ou ça pourrait être l'essence, si un jour on découvre ce que c'est de l'âme humaine.
Jennifer Richard, faute de se créer un double numérique, le groupe suisse Citron a décidé de bégayer. Il s'appelle donc Citron Citron et c'est leur deuxième album qui arrive dans les bacs et sur les plateformes avec notamment ce titre Rafale. Le groupe Citron Citron sur RFI, extrait de leur album Mare Éternelle. Jennifer Richard est aujourd'hui notre invitée pour Une vie infinie, qui est votre huitième roman. Et sans avoir tout lu, il semble quand même un peu à part dans votre œuvre, vous qui aimez l'histoire, qui avez beaucoup écrit sur la colonisation, sur la ségrégation. Rien de tel dans ce roman, ou alors entre les lignes?
Oui, en fait, une continuité avec mon précédent roman, Notre royaume n'est pas de ce monde, puisque je rassemblais dans une salle qui serait une sorte de limbe, une assemblée générale des chefs d'État, des intellectuels qui ont été assassinés pour ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils ont fait. Et le propos, c'était que la lutte intellectuelle ne vaut pas pour ce qu'elle produit forcément du vivant de la personne, mais ce qu'elle laisse aux générations d'après. Et que toutes ces personnes qui sont mortes dans mon roman, comme Jean Jaurès, Lincoln, Sankara, enfin bon, ils sont une soixantaine comme ça d'assassinés, on pense encore à eux aujourd'hui, et ils vont guider les générations pendant encore très longtemps. Donc,
c'est une façon de vivre éternellement,
ouais,
ou d'avoir une vie infinie.
Ce que disait Thomas Sankara, on peut tuer un homme mais pas ses idées, donc il y a une forme d'immortalité, immortalité étant un grand mot, ça parle du corps, mais une éternité en tout cas, une survivance de l'esprit, si le corps est mort.
Mais là, il y avait des personnages historiques. Dans celui-ci, il n'y en a pas du tout.
Non.
C'est une histoire de couple, en partie.
Oui.
Et puis cette affaire de numérisation, de double numérique. Mais en prononçant le mot de colonisation, je me suis dit, mais est-ce que finalement, la nouvelle colonisation ne serait pas celle du numérique aujourd'hui ?
Oui,
en partie.
Mais en fait, alors, la colonisation, pour moi, c'était une... Enfin, l'impérialisme, de manière générale, c'est une forme de capitalisme. C'était, je crois que c'est Hannah Arendt qui disait, c'est le rapatriement des capitaux investis à l'étranger. C'est ça, l'impérialisme. Et là, on est dans un capitalisme numérique, tout à fait, avec des personnes qui investissent vraiment dans des vies virtuelles. Vous pouvez acheter des reproductions... des reproductions numériques d'œuvres d'art pour orner votre maison numérique et puis avoir des personnages numériques qui vivent très, de manière opulente, bien plus que vous dans votre vraie vie. Et j'ai été assez fascinée par ça aussi, de me rendre compte qu'en fait, il y a des fortunes tellement grandes aujourd'hui qu'une vie humaine ne suffit pas à les dépenser. Et la Terre ayant des ressources finies, l'espace et le temps ne permettent pas de dépenser toutes ces fortunes. Donc il faut basculer, il faut se transférer encore une fois dans ce monde numérique pour pouvoir justifier l'amas de telle fortune.
Mais votre roman Une vie infinie, c'est du futur ou c'est du présent ? C'est de la fiction ou c'est de la science-fiction ?
Et je vous le demande, c'est un peu...
Ah mais non, vous renversez toutes les questions, ça ne va pas du tout.
Vous posez beaucoup de questions, mais en fait on peut tous réfléchir ensemble parce que pour moi c'est déjà actuel. En fait ça se place... quand je l'écrivais, j'avais... un objectif temporel, c'est-à-dire pour moi c'était après les Jeux Olympiques de Paris, donc il y a une petite mention à ça dans le roman, donc c'était le futur au moment où j'écrivais, mais c'était pour pouvoir dire qu'une fois que le roman serait sorti, c'était maintenant. Donc on est dans cette ère que je décris, je pense. Les applications que j'imagine ne sont pas du tout farfelues, elles existent en grande partie. Quant à un deuxième temps de la narration qui se situe dans le futur, à moyen terme, puisque c'est la vieillesse du personnage féminin. Voilà, là, j'imagine un peu la façon dont la politique va s'emparer de l'industrie de la mort.
Dans le roman, il y a une réflexion du personnage principal, Adrien, pour signaler qu'on est dans un monde post-Covid. Il dit « Oh, bah, c'est tellement 2019 !»
Oui, c'est ça.
Comme si c'était un autre monde. Et alors là, maintenant, on a
basculé
ailleurs.
Mais oui, il y a des choses, il y a des réflexes. Vous voyez, on voit encore dans beaucoup de lieux les pas sur le sol. Comment ça s'appelle ? J'ai le mot en allemand, Abstand. Gardez vos distances. Distance de... Comment ça s'appelle ?
Oui, j'ai oublié
distance
le terme.
Distance sanitaire, non ? C'est fou qu'on ait oublié ça.
Non, pas distance sanitaire. On se retourne vers Laura pour savoir ce que c'est, mais Laura a oublié elle aussi, mais je vois à peu près ce que vous voulez dire.
Ce n'est pas un oubli, à mon avis, on est en train de refouler quelque chose. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est tellement 2019, il y a des choses, des réflexes qu'on a, je trouve, qui font en effet, qui sont très marqués sur cette période-là. Et puis là, vous voyez, on a oublié ce mot, donc c'est pas mal.
En tout cas, ce qui arrive à votre personnage Adrien dans ce roman La vie infinie, c'est ça, c'est-à-dire qu'il rachète des startups, il rachète toute une série de projets, de programmes pour gagner la vie éternelle. Par exemple, il va mettre au point ou acheter un programme pour effacer les mauvais souvenirs ou pour proposer l'éternité numérique. Ça existe, ça, vraiment ?
Mais en fait, je ne sais pas quelles sont vos applications sur vos téléphones. Alors, je ne vous poserai pas de questions, mais...
tout savoir. Hein.
Oui, je pense que sur nos téléphones, en général, il y a tellement d'applications qui récoltent des données. Et c'est, en fait, ces sociétés... Alors, vous savez, vous avez les applications pour suivre vos pas, combien de pas vous faites dans la journée. Alors, vous pensez que... On pense naïvement que c'est pour notre santé, comme ça on va pouvoir monitorer notre santé. En fait, la géographie de vos journées est comme ça minutieusement transcrite et transmise à des entreprises qui collectent tout ça, qui centralisent, alors plus ou moins dans le présent, je ne sais pas à quel stade on en est, mais tout ça va bientôt être centralisé. Nos données de santé, tout ça, on peut tout savoir sur nous. Tout ce qu'on aime, tout ce qui nous attire, combien de secondes notre œil se pose sur telle image, telle photo, telle partie du corps. tout est mesuré en permanence.
Mais je dois être un peu vieux style, mais c'est quand même effrayant ce qui se passe dans ce roman et ce que vous racontez. Par exemple, dans le frigo, chez Adrien et chez Céline, donc sa compagne, il y a des avatars, chacun un avatar, un ni-moi, qui donne le rythme cardiaque, l'état émotionnel, qui guide le quotidien. Arrête de boire, t'as trop bu, arrête de manger, prends du sucre, arrête de... C'est effrayant.
Mais oui, c'est effrayant. Mais il y a même des gens qui ont des montres connectées, donc des choses quand leur pouls devient trop rapide, ils ont leur propos. Mais ça, c'est vrai, hein, ça, je crois que je le mentionne dans le roman, mais c'est vrai. Et l'application leur dit, je vous propose une petite séance de relaxation pour faire baisser votre rythme cardiaque. Et en fait, bientôt, peut-être c'est déjà le cas, l'application sait pourquoi vous êtes dans cet état. Parce qu'elle sait qui vous venez de voir, ce que vous venez de regarder. Donc, qu'est-ce qui a déclenché ça dans votre cerveau ?
Alors, c'est d'autant plus effrayant que votre personnage, Adrien, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand même est assez détestable.
Ah, donc vous avez pris parti.
J'ai pris parti. Ah bah quand même. Mm-hmm. Il est atroce.
Oui, il est... Oui.
Oh, il est franchement pas sympa.
Il
invite sa compagne à déjeuner, il lui en parle 8 jours après, il lui dit « Tu te rappelles le déjeuner à 400 balles ?» Bah, c'est quand même un goujat total, non ?
C'est vrai, mais il est...
Il n'y a que l'argent qui l'intéresse.
Oui,
c'est
les
chiffres. Et éventuellement la vie éternelle.
Les chiffres, la vie éternelle sous forme de chiffres. Tout à fait.
Et il va donc comme ça inventer toute une série de choses. Il y a aussi cette invention qu'il propose à sa compagne. Alors, je ne sais pas si on peut parler de fantôme, mais il va permettre à sa compagne de dialoguer avec son père décédé.
Oui.
Alors, ce n'est pas un fantôme, c'est là aussi un double numérique et interactif.
Bien sûr, mais ça existe.
Non.
Mais je vous assure, ça existe au moins en Chine. Ça existe déjà, mais je pense que c'est... Non, mais c'est même venu... Non, c'est même venu en Europe, suis-je bête. Je pense qu'il y a des auditeurs bien plus calés et à la page que moi qui sont en train de dire « Évidemment que ça existe, ça fait longtemps que je suis dessus. » Mais oui, vous pouvez dialoguer avec les fantômes de votre famille. C'est déjà le cas, ouais. Et en fait, vous enregistrez, en fait, l'application. Le logiciel enregistre tous les SMS, par exemple, émis par la personne de son vivant pour reproduire au plus près son langage. Et oui, c'est terrible.
Terrible. Ça vaudrait une minute de silence. Alors, je parle de fantômes, d'autres parlent de morts-vivants. C'est ce que dit d'ailleurs le philosophe et enseignant Laurent Bibard.
Voulons-nous vraiment fabriquer des morts-vivants ? Ça fait beaucoup fantasmer les jeunes. Moi, combien j'entends, y compris parmi des étudiants, qui prennent déjà pour acquis, qui tiennent pour acquis qu'on pourra, je cite, « télécharger nos cerveaux sur un ordinateur de manière à les rendre éternels ». Ça n'a aucun sens, ni technique, ni philosophique. Je pense qu'on peut dire que la vie éternelle n'est pas un but, elle est une orientation, elle est un guide, elle est un pressentiment. Elle est le fait qu'on pressent qu'on est capable d'éternité, qu'on est capable d'infini. De là à le vouloir matériellement, c'est autre chose.
Jennifer Richard, où en est votre personnage par rapport à ce que dit Laurent Bibard ? Il est au-delà du pressentiment.
Oui, mais je suis assez d'accord. Je trouve ça très beau, ce qui vient d'être dit. On est dans l'intime conviction, on est dans la fibre intime de l'être humain, je pense.
Alors, ceci dit, on parle beaucoup d'applications, on parle beaucoup de doom numérique, mais votre roman n'est pas un roman high-tech, en
non.
tant que tel. En revanche, c'est un roman... d'amour, avec ce personnage principal, Adrien, mais il y a aussi Céline, et puis apparaît, très vite, un homme qui s'appelle Pierre, qui est un grand ami d'enfance que Céline a perdu de vue, qu'elle va retrouver, et tout d'un coup, elle se sent tiraillée entre ces deux hommes, mais aussi entre deux temps. L'un, c'est le futur, c'est la vie éternelle. L'autre, c'est le présent. Adrien pense que le monde réel est foutu, donc il imagine des applications pour la vie éternelle. Pierre, à l'inverse, pense que la numérisation va aboutir à la liquidation de l'humanité.
Oui, c'est un tiraillement entre deux temps. Le temps vécu, le temps du cœur et le temps éternel, le temps plutôt sans fin, le temps qui n'en finit pas. Et Adrien perd de sa saveur quand Céline se rend compte qu'il est en train de lui fabriquer, de lui confectionner une sorte d'éternité virtuelle, donc complètement superficielle. Et il perd de sa saveur, parce que là, elle est en train de l'observer. Du coup, quand elle comprend ça, elle se met à le regarder différemment. Elle le regarde avec les yeux de l'éternité. Et elle se dit, est-ce que je vais encore supporter longtemps ces tics insupportables quand il sirote son vin en faisant du bruit, avec ses façons d'insister pour faire tchin-tchin dans les yeux, sa façon de se mouvoir, tous ces tics, sa façon d'ordonner sa vie. Bon, ça va sur 20 ans, 30 ans.
40, allez.
40, 2000 ans, ça commence à faire long. Et alors, à tout jamais, elle commence à se dire non, ça ne va pas être possible. Et à l'inverse, Pierre arrive avec son segment de temps beaucoup plus limité en lui disant, voilà, moi je suis là, je suis ce segment-là dans l'éternité. C'est ce que je te propose. Je te propose toi aussi de me suivre sur un segment, de te fondre dans l'éternité. Et tu verras, on va perdre toutes nos angoisses. Et on ne perdra jamais notre saveur, on ne perdra jamais ce qui fait de nous des êtres humains avec nos sentiments et notre spiritualité. Et elle voit du coup Pierre comme quelqu'un qui va disparaître, et c'est ce qu'elle trouve beau finalement.
Et lui, il invite par exemple sur sa péniche, il ne parle jamais d'argent lui.
Jamais, il n'en a pas, il s'en fiche.
Il s'en fiche, il n'a pas de métier, il y a des canards et des oiseaux autour de la péniche, et il lui dit c'est gratuit.
Oui, tout ça est gratuit. Et les vraies richesses, c'est un texte de Jean Giono, les vraies richesses sont gratuites. Tout ce qu'il y a de plus beau dans le monde, un coucher de soleil, un chant d'oiseaux, le babillement d'un enfant, tout ça c'est gratuit, c'est beau.
Et puis il y a une scène que je trouve formidable, il va, par un effet du roman, il va garder la petite fille de Céline, Zoé, et il l'emmène dans une manifestation. Alors pourquoi il l'emmène dans une manifestation? Pour illustrer le mot solidarité. C'est génial.
Oui, alors Zoé a été un peu traumatisée par la période du Covid, justement, ne pouvoir toucher personne, à être tenue responsable éventuellement de la transmission de maladies aux adultes autour d'elle. Et elle est devenue hypochondriaque. Donc elle ne touche plus rien, elle ne veut pas qu'on touche à ses affaires, vraiment. Et Pierre, elle a 10 ans. Pierre la prend pour une journée en l'immergeant dans un bain de microbes terribles, en effet, des gens en foule, quelle horreur! Et tout ça pour montrer qu'à 10 ans, tout est possible. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'un choix entre contact, pas de contact. Mais à 10 ans, tout est possible. Un enfant peut tout apprendre et tout désapprendre et se diriger vers absolument n'importe quel chemin. Et c'est juste ce qu'il voulait montrer à la mère de la petite. C'est que tu fais ça de ta fille, mais ne t'en fais pas. Elle suivra son chemin si elle en trouve un meilleur.
Alors Pierre, c'est le vieil ami d'enfance qui va, au cours du roman, travailler pour Céline, puisqu'il va devenir son monteur. Elle fait des documentaires pour la télé. D'ailleurs, vous avez fait ça aussi. Hein.
Moi, je suis encore un peu documentaliste. Moi, je cherche les images d'archives pour les documentaires.
Et Pierre va donc séduire Céline. J'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre roman. Alors, elle l'a pas vu depuis longtemps, c'est pas la première retrouvaille, il s'est passé des choses entre eux, mais là, elle l'avait pas vu depuis quelque temps et elle le retrouve.
Entre tournage et travail à domicile, elle n'avait pas revu Pierre depuis le dîner. Elle avait continué de penser à lui, cependant. Au début, il revenait à sa mémoire comme un feu de joie, l'embrasant tout entière. Puis son souvenir se rétractait dans un coin désaffecté de son cerveau. L'image revenait plus pâle et repartait se nicher au loin. Finalement, il perdait sa substance, se diluait en traits flous, visage sans regard et corps sans contour, et devenait un concept moralisateur, aussi rébarbatif qu'un passage au guichet de la mairie. Elle avait beau être persuadée d'avoir fait les choses comme il fallait, il manquait toujours un élément. Mais à la seconde où elle le revit, en entrant dans la salle de montage, elle se rappela qu'il n'avait rien de commun avec le fonctionnaire au service de renouvellement des passeports. Ou plutôt si, se dit-elle en s'asseyant à côté de lui. Une fois qu'on était entre ses mains, il ne restait qu'à s'en remettre à lui et à attendre. Il fallait lâcher prise. Au contact de son flegme félin, on expérimentait une autre manière de respirer le temps et d'avaler les problèmes de la vie. Et c'est précisément parce que, à l'instar d'un chat, il ne semblait pas se rendre compte de son effet calmant qu'il lui était irrésistible.
Un peu d'amour dans ce monde de brut, mais on va pas raconter la fin du roman, Jennifer Richard.
Ah bah non.
On la soupçonne parce que vous m'accusez pas, mais vous me dites j'ai pris parti. Mm-hmm. Vous avez pris parti aussi un peu.
Oui, mais moi j'ai le droit. Bon, vous aussi, ceci dit, le lecteur peut-être a même plus le droit que l'auteur.
Bah, absolument.
Donc voilà, bon, pardon. Donc vous
merci
avez le droit
de m'accorder ce droit.
Vous avez le droit de prendre parti. Moi j'ai pris un peu parti, mais de manière. j'essaie de ne pas m'imposer, de ne pas imposer mon choix. Et c'est étonnant parce qu'il me semble pourtant évident, et il vous le semble aussi évident, donc ça me fait plaisir. Mais certaines personnes m'ont dit, mais on ne sait pas où t'es là-dedans. Alors je me dis, alors si tu ne sais pas où je suis, c'est que toi non plus, et peut-être que tu hésites entre les personnages, et dans ce cas, c'est louche.
Mais c'est intéressant,
bien sûr,
quand même, d'hésiter entre les personnages. Quel rapport entretenez-vous avec l'écriture, Jennifer Richard, ou avec le français, sachant que vous avez des origines multiples, vous êtes née aux États-Unis, mais vous avez une vie multiple aussi, vous ne vivez plus en France. J'ai cru lire dans votre biographie que votre père était normand, que votre mère était guadeloupéenne. Ça fait un sacré cocktail.
Oui, et puis j'ai beaucoup vécu, en tout cas, des séjours assez longs. Soit j'ai vécu, soit j'ai passé des mois et des mois dans tous les dom-toms, en fait, tous les territoires d'outre-mer. Et j'ai décidé de quitter Paris pour Berlin, où j'habite depuis 5 ans. Et j'ai pas encore pris l'essence de ce qu'est l'Allemagne, mais ça me permet de voir la France différemment, en tout cas, de juste avoir fait ce pas de côté. Il y a des tas de choses que je vois différemment sur
mais
le
comment,
fonctionnement.
Comment, par exemple?
La politique, qui est une question qui m'intéresse beaucoup, dont je me suis un peu écartée avec ce roman, enfin, quoique très différemment. La politique française, les politiques françaises et allemandes sont très différentes. On fait souvent des comparaisons avec notre voisin allemand pour dire ils travaillent plus, ils sont plus efficaces, ils sont plus ceci, cela, et donc il faut faire la même chose. Et en fait, on oublie de dire des tas de choses. On oublie de dire que les Allemands, en fait, non, ils ne travaillent pas le dimanche, par exemple. Jamais, jamais, jamais. Vous ne trouverez pas un magasin ouvert en Allemagne un dimanche. Que le repos est sacré, les temps sont marqués, sont beaucoup plus marqués entre le temps de la consommation, de la production, le temps de la famille. Il y a des différences comme ça. La démocratie est organisée différemment. Elle est beaucoup plus proche de l'électeur. Voilà, ce sont des petites choses que j'ai pu observer. La décentralisation totale, c'est un État fédéral. Vous avez des gares partout. Le réseau ferroviaire est immense par rapport au réseau ferroviaire français. Il n'y a pas de zone laissée pour compte comme en France. Surtout quand on regarde les territoires d'outre-mer qui sont loin des yeux, loin du cœur. Et ça, ça me fait beaucoup souffrir.
Et comment vous regardez la littérature française depuis Berlin, ou depuis ses origines multiples? Parce que, comme un sentiment que votre roman n'est pas tout à fait français.
Ah, c'est vrai. Oui, mais en fait...
C'est ni un compliment, ni un reproche. Hein. C'est un constat de se dire qu'il est un peu décalé par rapport aux thématiques de la littérature romanesque française aujourd'hui.
Oui, mais c'est étonnant que vous souligniez ça, parce qu'en effet, il y a plusieurs ambiances dans le roman. Il y a l'ambiance du fleuve avec les animaux. Donc ça, c'est ma vie à Berlin, puisque je vis au bord d'un parc. Je vois les animaux un peu toute la journée.
Ça, c'est la péniche, c'est Pierre.
Exactement, c'est les saisons qui vivent devant moi. Et le roman se passe également à Paris. Et je pense que j'aurais pas fait ça de manière aussi appuyée si j'étais toujours à Paris. Là, j'ai pu avoir un regard un peu décentralisé sur Paris et sur ses personnages. Donc c'est pour ça que je m'en moque et que j'ai pris plaisir à m'en moquer, parce que j'ai essayé de m'extraire de ça. Donc je me sens plus concernée, mais je le suis quand même, je suis une citadine.
Mais la thématique aussi, sur la question de la vie éternelle, n'est pas très courante dans la littérature et dans le roman français aujourd'hui, il me semble.
Oui, peut-être. Peut-être sous des formes différentes. Peut-être plus en science-fiction, alors.
Et plus en science-fiction, d'où ma question tout à l'heure, est-ce que c'est de la fiction ou de la science-fiction?
On y revient. Et je pense que c'est de la fiction, malheureusement. Parce qu'on est en pleine science-fiction.
Ah oui.
Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est dans le futur, c'est pas une dystopie.
C'est pas un regret de ne pas écrire de la science-fiction?
Non, 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 c'est un regret, c'est un remords de nous être plongés là-dedans, dans ce monde tête baissée, je trouve.
Et là, c'est votre côté Adrien.
Oui, non, pas du tout. Non, arrêtez.
Merci beaucoup, Jennifer Richard. La vie infinie est éditée chez Philippe Ray. Et il est actuellement sur la première liste du Médicis.
Oui.
C'est pas mal.
Oui, j'en suis très fière.
On va regarder la suite. Merci beaucoup. Bon retour à Berlin, puisque je crois que vous partez assez vite.
Merci.
De vive voix, Pascal Parado, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur le site rfi.fr et sur l'application Pure Radio. À la semaine prochaine.